Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour à tous. Voici venue l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité régionale, Carnet de région. Une émission produite et réalisée par des radios associatives et non commerciales du Languedoc-Roussillon. Au sommaire de l'édition de cette première semaine de juin, mise en page par Radio Grille Verte à Alès. L'ouverture de l'édition 2013 du Printemps des comédiens à Montpellier. Comment réfléchir ensemble au développement touristique le long de l'A75 ? Telle est la mission d'une nouvelle association, Via 75. La maladie de Lyme, ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, cette affection progresse chaque année. Enfin, la résistance expliquée aux collégiens par des collégiens.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Le Printemps des comédiens a démarré le 5 juin et c'est jusqu'au 30 juin que ce festival dédié surtout aux arts de la scène investit le domaine d'eau à Montpellier, un vaste parc avec amphithéâtre et chapiteau qui appartient au Conseil général de l'Hérault. Moment phare de la vie culturelle départementale, chaque année, de nombreux spectacles affichent complet. Depuis 3 ans, Jean Varela a succédé à Daniel Bedos à la direction du festival. Comment a-t-il travaillé la programmation de cette édition ?
En continuant le travail entrepris depuis 3 ans, à savoir recentrer le festival sur le théâtre, la création, le théâtre de service public, et en essayant de garder ce côté rassembleur qui est la marque du festival, puisqu'il rassemble environ 40 à 45 000 spectateurs par saison. J'essaie d'abord de travailler sur les artistes qui me semblent importants de montrer. Et après, c'est une fois que la programmation est terminée, c'est tout le travail de relations publiques, de rencontres avec les groupes de spectateurs, avec les comités d'entreprise, avec les scolaires, avec les réseaux que nous avons partout sur le territoire, qui fait que je peux aller par devant les spectateurs potentiels et leur dire pourquoi tel et tel spectacle s'adresse à eux, pourquoi nos propositions sont des propositions qui s'adressent à tout le monde et pourquoi on peut sans crainte venir assister à tel ou tel spectacle. Et il y a dans ce travail-là un accompagnement tarifaire, on a des prix en abonnement qui sont raisonnables, et cette année nous proposons pour les personnes jusqu'à 25 ans un tarif à 8 euros pour l'ensemble des spectacles. Donc il y a le travail d'explication, de présentation, d'éducation populaire, et puis il y a l'accompagnement rendu possible grâce à l'aide publique du Conseil Général qui nous porte vraiment très fort, hein, de donner des tarifs accessibles aux uns et aux autres.
Les tarifs, selon les spectacles, sont compris entre 5 et 30 euros. Signalons la fête de la musique le 21 juin, où la soirée est gratuite avec une carte blanche donnée à Folie Lyrique, une association organisatrice de concerts. Il y aura ce jour-là, dans le parc, pas moins de 4 scènes et 15 concerts proposant des styles musicaux extrêmement divers. La compagnie Air de Lune, dont le spectacle Paroles gelées avait enthousiasmé les spectateurs, propose à cette édition du Printemps des comédiens Lilium, une création qui mixe fêtes foraines et théâtre à partir d'une pièce de l'écrivain hongrois Ferenc Molnár. Si le théâtre demeure et persiste depuis des milliers d'années, c'est parce qu'il est la maison de la parole. Ces propos de Jean Bellorini, qui a signé la mise en scène de ce spectacle, parlent de Lilium d'une certaine manière. Les explications de Jean Bellorini.
Le sous-titre, c'est « Légende de banlieue en 7 tableaux ». Ça démontre déjà beaucoup de choses. Ça parle de gens qui sont en marge de notre société, à la périphérie de nous, et qui sont donc en marge de tout. Ça parle de cette solitude. C'est l'histoire finalement très simple d'un forain qui se fait évincer de son manège, qui tombe amoureux d'une petite boniche et qui va décider d'avoir un rêve, le rêve de l'Amérique. Et il va chercher de l'argent pour pouvoir partir. Il va mettre enceinte la petite Julie, et au moment du braquage pour avoir cet argent, il va se suicider pour échapper à la police, et on va le retrouver au paradis quelques temps après, et on va lui dire qu'il aura le droit de descendre sur Terre 16 ans plus tard. Voilà en très très gros l'histoire, qui est donc une fable très naïve, un conte très simple, qui parvient à tout le monde, et qui parle de la violence du langage, de la solitude des marginaux, des gens à la marge de notre. Et en même temps de l'envie de rêve et de l'envie d'imaginer.
Ce spectacle est programmé jusqu'au 16 juin. Signalons que le 14 juin à 19h, Jean Bellorini rencontrera le public. Il est bien sûr recommandé d'aller sur Internet pour vérifier le détail de toutes ces propositions artistiques ainsi que pour la réservation en ligne. C'était un sujet recueilli par Isabelle Bourdet pour RPH. Comment réfléchir ensemble au développement touristique le long de l'A75 ? Telle est la mission d'une nouvelle association Via 75. Perles vertes, itinéraires de découverte, villages étapes, méridiennes. Les réseaux se sont multipliés ces dernières années le long de l'autoroute 75. Créé à Millau la semaine dernière, Via 75, le petit dernier, se propose de les regrouper. Alors, pourquoi et comment ? Réponse de Hadj Madani, le vice-président de la communauté de communes Lodévois et Larzac, en charge du tourisme, qui a pris la présidence de cette nouvelle association.
Donc depuis un an et demi, aidé par un bureau d'études et soutenu par le CRD, nous avons travaillé pour fusionner un peu ces différentes structures, pour mutualiser les moyens et pour gagner en efficacité et travailler pour le développement touristique. C'est plus d'un million de personnes qui vivent autour de cette autoroute. Aux extrémités, vous avez l'agglo de Clermont-Ferrand, l'agglo de Montpellier, l'agglo de Béziers. Pour nous, tout cela représente un potentiel important pour nos professionnels du tourisme. Et puis voilà, ça représente Pézenas, Lodévois et Larzac, Millau-Grand-Cosse, Saint-Gély-d'Apché, Marvejols, Issoire, Saint-Flour. Donc l'objectif, c'est bien de fédérer, dans un premier temps, les communautés de communes qui portent la compétence tourisme, faire travailler ensemble les ADT, les CDT, et bien entendu, les régions et départements. La première mission qu'on s'est donnée, c'est plutôt le site internet, internet mobile, en fait tout ce qui est applications, smartphones et autres, et puis tout ce qui est outils de navigation. Aujourd'hui, il faut rentrer en communication sur l'autoroute avec les gens et leur expliquer un petit peu que c'est une autoroute singulière qui est différente de ce qu'on a l'habitude de voir puisqu'elle est gratuite avec de nombreuses sorties. Ben, sur une autoroute à péage, ben, on s'arrête dans une aire et on mange vite fait. Dans l'autoroute A75, on peut décrocher et déjeuner dans un petit village avec des produits de qualité et puis découvrir les terroirs.
Alors, vous l'avez compris, pas question de faire ce qui existe déjà, mais plutôt de mener des actions complémentaires en matière de développement touristique sur une autoroute pas tout à fait comme les autres. À l'exception du viaduc de Millau, l'A75 est en effet gratuite et compte pas moins d'une soixantaine d'échangeurs entre Clermont-Ferrand et Béziers, voire même Montpellier avec le prolongement de l'A75.
L'installation définitive de cette autoroute change nos façons de vivre, nos façons de voir. Les territoires se rapprochent, on le voit, nous, par exemple, par rapport à Montpellier. On est à 25 minutes, les gens travaillent à Montpellier, vivent à Lodève et ça leur pose pas de problème. On est à 25 minutes de Millau, on est à une heure de la Canourgue. Parce que nous avons beaucoup de clients qui viennent du centre de la France, de la Lozère ou de l'Aveyron. Ces gens se déplacent, font des randonnées, font du vélo, font des activités de pleine nature, vont voir des expo. En fait, finalement, ce qui était hier une association devient un concept. C'est-à-dire, nous gardons dans Via 75 le concept des villes étapes, des villages étapes, des itinéraires de découverte, mais tout ça, ça devient des concepts. C'est les territoires qui adhèrent à cette association, mais aussi les chambres consulaires. La Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier a adhéré, parce que eux, dans leur stratégie, il y a longtemps qu'ils ont mis l'autoroute A75 comme outil un petit peu d'échange et de développement. Les professionnels du tourisme peuvent adhérer, et puis différents partenaires. Donc hier matin, juste avant la réunion, j'avais rencontré le directeur des Phages. Ça peut être aussi des entreprises emblématiques comme Roquefort. Voilà, ce réseau-là réunit tous les opérateurs du tourisme, quels qu'ils soient, et on réfléchit ensemble au développement touristique.
Pour être complet, l'association La Méridienne, que préside l'ancien maire de Millau, Jacques Godefrin, n'a pas voulu rejoindre pour l'instant ce nouveau réseau de développement touristique, la Via 75. C'était un sujet proposé par Alain Mendez de Radio Lodève.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
La maladie de Lyme, nommée borréliose en Europe ou encore borréliose de Lyme, est une maladie bactérienne. La contamination intervient la plupart du temps lors de morsures de tiques. Présente dans 65 pays, elle est devenue la plus fréquente de toutes les maladies vectorielles transmises à l'homme dans l'hémisphère nord. Et pourtant, en France, cette maladie est largement sous-estimée. Que ce soit par les médecins, qui ne sont pas spécialement formés pour la détecter lorsqu'elle se développe, par la recherche, qui a encore du mal à la détecter, même avec une prise de sang, ou encore par des structures étatiques, comme les agences régionales de santé, qui ne font pas spécialement d'efforts pour informer la population des risques. Face à ce déni, des associations se sont créées un peu partout en France, comme Lyme sans frontières. Judith Alberta en est la présidente et elle explique par téléphone à Rémi Goujon de Radio Escapade quel est le but de son combat.
Alors nos revendications, c'était surtout la levée du déni, de l'omerta et de l'incurie relatif à la maladie de Lyme. C'est à la fois une nécessité pour que le gouvernement ouvre les yeux, si ça n'avait pas été fait dans les gouvernements passés, malgré de nombreuses alertes, ce n'est pas quelque chose de récent. Des alertes sont levées dans le monde entier et disent exactement, mais juste exactement le contraire de ce qui est maintenu en France. Nous souhaitions également que soit développée la recherche sérodiagnostique, c'est-à-dire les tests sanguins, et les recherches d'une manière générale sur la clinique de la maladie, et que la formation des médecins soit faite à un niveau suffisamment conséquent et updaté, de façon à ce que les médecins puissent faire face à de nombreux malades qui sont potentiellement atteints de la maladie de Lyme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Allemagne, on estime que 2 millions de malades de Lyme sont atteints par cette maladie de manière chronique, alors que la chronicité de la maladie est encore totalement réfutée en France. Il y a donc 2 millions de malades chroniques en Allemagne. Il y a 1 million de nouveaux cas par an. Et en France, nous sommes encore sur des valeurs de l'ordre de 12 500 cas par an, donc dans une maladie rare. Alors, naturellement, cela pose problème. Je ne dis pas que ce déni n'existe pas également en Allemagne et dans notre pays. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu, les 10 et 11 mai derniers, un mouvement international de protestation contre la méconnaissance de la maladie de Lyme dans le monde entier. Donc, ça prouve bien que le problème que nous rencontrons en France n'est pas qu'un problème français, c'est un problème international, mais il semble être beaucoup plus dur en France que dans d'autres pays où les associations, les médecins sont plus entendus, reconnus. En France, c'est vraiment, les portes sont terriblement fermées. Il y a un ensemble de responsabilités, mais la responsabilité, je dirais, principale appartient incombe à l'État, c'est-à-dire que c'est l'État qui doit faire les travaux nécessaires, les démarches nécessaires pour que aussi bien les ARS, les agences régionales de santé, les CPAM, les médecins, les professeurs en hôpital soient informés de la réalité et ensuite fassent redescendre les informations pour que, à tous les niveaux, régional, national, de façon à ce que on puisse prendre en considération ce qui s'annonce quand même comme être une pandémie, ce qui avait été d'ailleurs dit et redit par le professeur Montagnier l'année dernière, au mois de mars, lors d'une interview qui a été faite à l'UNESCO, où il parle de pandémie et il dit qu'il faut absolument développer les sérodiagnostics de façon à ce que on puisse identifier les malades, mais on est sur quelque chose de grave et qui est un problème de santé publique probablement sans précédent. Maintenant, les informations doivent effectivement circuler au bon niveau.
La maladie se développe fortement dans les Cévennes, régions boisées, où les tiques sont très présentes. Une pétition pour la reconnaissance de la maladie de Lyme circule en ce moment sur Internet et elle a déjà récolté plus de 56 000 signatures. C'était donc un sujet de Radio Escapade et réalisé par Rémi Goujon. La résistance expliquée aux collégiens par des collégiens. Le 27 mai est le jour anniversaire de la première réunion du Conseil national de la Résistance. Et c'est cette date anniversaire qui fut choisie par le Collège Racine d'Alès pour présenter officiellement l'ouvrage « Camarades, entends-tu ?», sous-titré « La Résistance expliquée aux collégiens par des collégiens ». Réalisé par 10 élèves de 3e sous la direction de leur professeur d'histoire, Gilles Roumieux, ce livre de 160 pages est le résultat d'un travail de 2 années sur la Résistance et ses valeurs. Cet ouvrage est aussi le fruit d'une réflexion engagée depuis de nombreuses années par Gilles Roumieux, comme celui-ci l'a rappelé dans un exposé liminaire consacré à la genèse de ce livre.
Et en 1996, je me suis retrouvé à Bessèges dans un petit établissement et le principal décidait que les professeurs devaient participer au concours de la résistance. Et un élève qui a été primé, puis j'ai continué, puis ils ont reçu le premier prix, etc. Et puis je trouvais ça extraordinaire. Puis je me suis dit au bout d'un moment, quand ça faisait 5, 6 ans, 7 ans que je participais au concours de la résistance, je me disais peut-être que tu pourrais faire autre chose maintenant et essayer de varier ta palette. Alors ce que j'ai fait, j'ai organisé des voyages scolaires sur les lieux de mémoire. Et ça m'a passionné parce que je pense que le lieu c'est quelque chose de très important pour les enfants. Et donc je les ai organisés, j'ai commandé un voyage, j'organise un voyage et puis Je n'étais pas trop satisfait. Oui, c'était bien, je m'étais régalé, et les enfants aussi, mais je pouvais le faire par moi-même, me rendre sur les lieux, et puis en même temps faire les visites. Puis je me suis dit, quand j'ai maîtrisé ça, je me suis dit, peut-être que tu pourrais faire autre chose maintenant. Tu pourrais te lancer dans des projets un peu plus aboutis. Alors j'ai créé un atelier mémoire. Alors un atelier mémoire, c'est toujours pareil. Il faut d'abord avoir les élèves qui souscrivent à cela, qui ont envie de travailler parce que ça demande un travail important. Et puis les enfants qui ont participé, ils ont aussi, il faut le reconnaître, beaucoup de qualités pour pouvoir répondre à ça. Alors.
En 2013, l'épopée de la résistance peut nous apparaître bien lointaine, voire caduque, comme certains aimeraient à le faire croire. Or, elle fut l'apanage de la jeunesse. Et c'est précisément ce qu'a souhaité Gilles Roumieux, rendre hommage à cette part de la jeunesse des années 40 qui se sacrifia et s'adressait ainsi à celle d'aujourd'hui.
Il y a quelque chose qui me gêne beaucoup quand on parle de la résistance. La plupart des personnes disent « Oui, mais ça, c'est des vieilles personnes, elles ont les cheveux blancs, c'est vrai. » Mais non, mais dans la résistance, c'était que des jeunes. C'était tous des jeunes. Aujourd'hui, les gens qui luttent dans le monde, ce sont tous des jeunes qui en veulent. Donc je voulais partir de jeunes. Et puis je trouvais que c'était... J'ai utilisé le contexte de l'occupation justement pour véhiculer les valeurs de la résistance. Le titre, c'est pas un hasard. Si c'est Camarade entendu, c'est un message qui est adressé eh bien, à tous les jeunes adolescents pour leur dire que finalement, oui, 39-45, ça peut être assez lointain, mais que c'est finalement très proche. Alors c'est un nom un petit peu ronflant. Hein, Camarade entendu, la résistance expliquée aux collégiens par des collégiens. Mais justement, c'est ça, moi, la démarche qui m'intéressait. C'est-à-dire, on va faire apprendre la résistance à des collégiens, mais écrit par des collégiens.
C'est par la voix de Manon Fournier que 10 élèves de l'atelier mémoire du collège Racine d'Alès nous disent maintenant comment ils ont entendu le message de leur professeur d'histoire.
Je dirais que ça m'est venu à l'idée naturellement quand on me l'a proposé. J'avais déjà eu la chance de travailler avec M. Roumieux sur une exposition l'année précédente. Et je suis quelqu'un qui me suis toujours posé beaucoup de questions sur cette époque. Parce que dans ma famille, on a quand même certaines valeurs et on a défendu ça. Et à vrai dire, j'ai une mère allemande et un père français. Donc ce qui fait que bon, quand on m'a parlé de la guerre à l'école, je me suis demandé comment ça s'était passé dans ma famille, comment les relations françaises, allemandes, durant la guerre s'étaient déroulées. Et j'avais du mal à le comprendre, alors pouvoir aider d'autres collégiens que moi... À le comprendre comme M. Roumieux m'avait dit à le comprendre, ça pouvait être utile et bénéfique pour moi, pour plus approfondir la chose et pour les autres aussi.
Tout à l'heure, Gilbert Roumieux a d'une certaine manière expliqué que c'était précisément des jeunes gens qui s'étaient engagés dans la résistance, qui ont peu ou prou votre âge. Si une situation pareille se renouvelait, qu'est-ce que vous feriez ?
Très franchement, je préfère pas me prononcer là-dessus parce que c'est une situation qui, pour moi, ne devrait pas se reproduire. Et se mettre dans cette situation-là, c'est totalement impensable à imaginer. C'est des gens qui, pour moi, étaient absolument exceptionnels. Et je ne peux pas me vanter de pouvoir faire comme ces personnes incroyables, pouvoir refaire pareil. Parce que je serais peut-être comme toutes ces personnes qui n'ont rien fait, qui ont juste cherché à protéger leur vie. Mais je les admire et j'espère de tout cœur que si ça se reproduisait, je puisse avoir le même courage, la même volonté de résister.
Composé d'une fiction, d'un dossier historique et d'illustrations, Camarade entends-tu a été subventionné par de nombreuses associations d'anciens résistants et déportés qui, tels Jean-Pierre Méroli, déporté à Buchenwald, œuvrent inlassablement à témoigner auprès des plus jeunes de ce que fut la résistance et ses valeurs.
Les enfants, au début, sont là pour eux. Ils nous reçoivent, mais ils ne savent pas trop. Et lorsqu'on a répondu à leurs questions, parce qu'ils ont des questions très pertinentes, qui nous forcent à dire des fois ce qu'on nous... Je ne voudrais pas dire, parce que ce sont des enfants et c'est gênant peut-être un peu de leur dire c'est des brutalités dont on a subi. Et puis, chaque fois que nous passons dans une école, on a toujours des remerciements de la part des enfants qui nous envoient des mots gentils, très touchants, où on leur a appris et ils nous remercient de leur avoir apporté ce que nous avons pu leur apporter.
À défaut d'être actuellement distribué en région, il est possible de se procurer cet ouvrage d'histoire et de mémoire auprès de la librairie Sorams d'Alès ou encore auprès du Mémorial de la Résistance en Vercors. C'était un reportage de Radio Grille Ouverte. Ce carnet de région se referme pour cette semaine. Carnet de région est une émission produite et réalisée par des radios associatives et non commerciales du Languedoc-Roussillon. Merci aux radios qui en ont permis la réalisation. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Rendez-vous même lieu, même heure, la semaine prochaine. Au revoir à tous.
Carnet de région.
Héros.
Aude,
Gard,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Gard,
Lozère,
Aude.
L'actualité en langue de Roussillon.